Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Des tirs de missiles à Dnipro qui ont fait au moins 30 morts dans un immeuble. La prise de Soledar et puis un nouveau général russe pour diriger les opérations en Ukraine. Après des mois de revers, Moscou reprend l'offensive. L'Info C'est Clair est intitulée « Victoire de Soledar ». Poutine peut-il gagner ? Nos invités, Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Et Nicolas Tonev, journaliste à Europe 1, spécialiste de la Russie, co-auteur avec Anastasia Kirilenko du documentaire Poutine, le parrain. Merci de participer à cette émission en direct. Donc la colère et l'émotion à Dnipro, c'est dans l'est de l'Ukraine. Un immeuble civil a été touché par un missile russe. Le bilan est d'au moins 30 morts et 75 blessés, sujet de Valérie Lerouge.
Au milieu des décombres encore fumants, quelques rares miracles. Cette femme rescapée est extraite par les sauveteurs 24 heures après l'effondrement de son immeuble, frappé par un missile russe. Voilà tout ce qu'il reste des 9 étages. Toute la nuit, les sauveteurs ont fouillé les gravats. Sous le regard hagard d'habitants en état de choc, révoltés d'être ainsi visés par les Russes.
Pourquoi vous avez tué mon fils ? Vous êtes venu dans notre ville avant. On vous a accueillis comme des gens normaux, comme notre famille. Pourquoi vous m'avez fait ça ? Bande d'ordures ! Je vous maudis pour cette génération !
La frappe a fait au moins 29 morts, 73 blessés, une quarantaine de personnes restent portées disparues.
Je suis vraiment choqué. J'aurais jamais imaginé qu'ils pourraient viser nos maisons. C'est un quartier résidentiel ici. Il n'y a aucune installation militaire. Il n'y a rien ici.
Les Russes ont tiré une cinquantaine de missiles comme celui-ci, en plus de 3 frappes aériennes. Le jour du nouvel an orthodoxe, qui aurait dû être une fête pour beaucoup d'Ukrainiens.
C'est clairement du terrorisme. Tout ça n'est pas humain. La victoire doit être remportée sur le champ de bataille et pas parmi la population civile.
Des victimes civiles et des combats qui s'intensifient à l'est du pays. La ville de Soledar serait désormais contrôlée par les Russes, selon Vladimir Poutine, qui se félicite aujourd'hui d'une dynamique positive conforme à ses plans.
Anne-Elisabeth Moutet, c'est vrai qu'une guerre n'est pas, on ne cible pas les civils en temps de guerre.
Ça vaut pour les pays normaux et ça vaut absolument pas pour les Russes, parce que c'est pas la première fois qu'ils ciblent, qu'ils n'ont pas arrêté de cibler des civils, ils n'ont pas arrêté de bombarder, ils n'ont pas arrêté de détruire de l'équipement, de l'infrastructure. Les Ukrainiens n'ont pas encore repris Mariupol, mais on va voir dans quel état ça se trouve. Essentiellement, ils font en Ukraine ce qu'ils ont fait en Syrie, ce qu'ils ont fait en Tchétchénie, et c'est une guerre non seulement totale, mais c'est une guerre sale. Alors, on va voir tout à l'heure. Les gens qui mènent cette guerre, quand on va parler de Soledar, donc pas tout de suite, mais il y a aussi une sauvagerie qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est autorisé. Vous savez que l'ONG ukrainienne qui comptabilise les crimes de guerre recensés, prouvés avec des observateurs internationaux, dont des gendarmes français, a recensé presque 50 000 déjà crimes de guerre spécifiques. C'est l'ONG qui a été lauréate du prix Nobel de la paix de 2022. C'est cette espèce de technique de guerre sale qui est une technique d'un autre âge en réalité. Non seulement c'est voulu, c'est planifié. Le missile qui a servi à faire cette attaque sur l'immeuble, et apparemment s'il y en a 50, ce sont des missiles qui ont été conçus pour démolir un navire entier, un navire de guerre entier. Donc ce sont des choses énormes et ils ont visé. Ils n'ont pas tout atteint, mais ils ont visé. Donc c'est,
Nicolas, tu en as justement sur ces missiles. Est-ce qu'on sait si c'est... Les Russes disent, nous, on vise des infrastructures. Est-ce que c'est délibérément ou c'est un... un dommage collatéral, cet immeuble qui a été touché par ce missile. Qu'est-ce qu'on sait ?
En fait, en l'espèce, avec ce genre de missile qui a été conçu dans les années 60, hein, c'est un missile anti-navire au départ qui porte une tonne d'explosifs, donc c'est absolument énorme. Hein, c'est la masse d'explosifs, c'est pas la masse du missile. La masse du missile, c'est un peu plus de 2 tonnes. Et ces missiles ont été conçus pour être utilisés en grappe, tellement ils sont imprécis. Hein, ils tapent dans un rayon de 500. Voilà, ils sont très imprécis. Ça tape dans un rayon de 500 à 600 mètres. Et à l'époque de la mise en fabrication, dans les années 60, ils étaient utilisés en grappe, en principe, contre les navires. Ce qui est à noter, c'est que ils ont été remis en service par les Russes pour pallier le manque de missiles modernes. Et selon les estimations, il y en aurait entre 1000 et 3000 utilisables ou possiblement remis en service. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre encore à de nombreuses frappes terribles de ce genre.
Mais Anthony Bélanger, quel est l'objectif recherché des Russes en ciblant non pas ceux qui font la guerre, c'est-à-dire l'armée ukrainienne, mais en ciblant des dames? On a vu cette dame qui les maudit les Russes maintenant jusqu'à la 7e génération. Écoutez, elle ne représentait pas un danger direct pour l'armée russe, cette dame.
Écoutez, vous prenez les doctrines occidentales, vous les retournez comme des crêpes et vous avez la doctrine russe. Oui. C'est simple à comprendre. Les Occidentaux, les Français, c'est tirer les premiers, monsieur les Britanniques. Bon. Je vais un peu vite. On dimensionne la guerre technologique, nos chars Leclerc, c'est presque comme des cockpits d'avions à piloter. On fait des canons très précis qui vont très loin. Et puis on dissimule, c'est des petites unités. C'est comme ça que depuis 30 ans, on vend la guerre moderne. Guerre technologique, petites unités, guerre de... Comment dire, armée, dimensionnée, professionnelle, on abolit la conscription, on fait des petites armées professionnelles, et puis finalement les militaires se retrouvent entre eux, veulent une frégate, deux frégates, hein, ce type de choses, ce type de machin. Bref, ce sont des petites unités armées qu'on imagine en coalition au sein de l'OTAN pour faire nombre.
Ça, c'est la vision moderne, c'est l'armée française, quoi.
Française. Il ne faut pas s'étonner que les Russes aient pris exactement l'option inverse. En matière technologique, they're not a match, comment dire en anglais. Ils n'ont pas ni les moyens financiers, ni les moyens technologiques de nous faire concurrence. Donc, ils massifient en termes de stock.
Façon soviétique, Seconde Guerre mondiale.
Ça a si bien fonctionné pour la Grande Guerre patriotique, et c'est en plus qui est resté dans la tête des Russes. Pourquoi voudriez-vous qu'aujourd'hui, ils changent de tactique? Alors, ils ont essayé autre chose. Le 24 février, ils ont essayé un truc à l'occidental. Et hop, on passe par derrière, et hop, on fait un petit coup, on prend l'aéroport et on essaie de faire tomber Kiev. Ça n'a pas très bien marché, même pas du tout marché. Donc ils sont revenus à ce qu'ils avaient en tête, c'est-à-dire créer une bande de territoire à la Catherine la Grande, Nouvelle-Russie, les quatre oblasts en question, ce qui a plutôt pas mal fonctionné jusque-là. On massifie. On prend le temps de bâtir une narration et aujourd'hui on en est à la première, voilà, deuxième vague de mobilisation avec effectivement, vous avez raison, des missiles KH-22, je l'ai noté, qui datent des années 60, qui sont imprécis, vous avez raison, mais qui sont absolument gigantesques avec une tonne d'explosifs à l'intérieur et qui font du dégât. Et on en a des dizaines de milliers de ces missiles, contrairement à ce qu'on pense. Les Russes n'ont peut-être pas des missiles extrêmement qui vont vite et qui tapent partout et précisément, mais de ces missiles-là des années 60, ils en ont beaucoup encore.
Ce qu'il faut dire en termes de massification, c'est qu'en fait, les Russes sont aussi dépendants du matériel existant. Tout a été conçu à la fin de la guerre froide ou pendant la guerre froide. Et les chars russes ne sont pas conçus pour abattre un char occidental en une fois. Les chars occidentaux actuels ont été conçus dans les années 90, les chars russes dans les années 70. Ils ont 20 ans de retard. Donc en gros, il faut sortir 5 ou 6 chars russes pour abattre un char occidental. Donc ils sont obligés de massifier. Puisque vous mettez autant de matériel et derrière, il faut autant d'hommes.
Et je dirais que massifier, ça veut dire aussi qu'on sacrifie du monde. Pas avec un missile, enfin on sacrifie des civils ukrainiens, puisque comme disait la personne dans le reportage, c'est un quartier résidentiel, il n'y a rien d'autre que des maisons, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Mais il n'y a aucun problème pour envoyer ce qu'en russe on appelle, malheureusement je ne sais pas le mot en russe, de la viande. La viande, ce sont les conscrits, on les appelle les mobiles.
Alors on va en parler de ça. Juste un mot sur quel effet ça peut avoir sur les civils ukrainiens. Est-ce que ça les désespère et du fait que cette dame peut se retourner vers Zelensky en disant maintenant on arrête parce que moi j'ai perdu mon fils, ou est-ce qu'au contraire on est fou de rage? Est-ce qu'on a une idée sur la psychologie que ça peut avoir?
La deuxième solution pour les Ukrainiens, il y a l'Ukraine continue à essayer, c'est pour eux une question d'honneur, d'avoir une vie qui continue à marcher, le Parlement siège, il y a des études qui sont faites, il y a des sondages qui sont faits, il y a, si vous suivez sur Twitter le compte des trains en Ukraine, et quand on casse, quand on détruit les lignes ou quand on reprend une ville, tout est remis en place au fur et à mesure. Ils vendent depuis plusieurs semaines déjà des billets entre Kiev et Kherson, par exemple. Et alors l'attitude des Ukrainiens, c'est naturellement, c'est on sait ce que c'est que les Russes, on ne veut pas les voir chez nous, et il y a un soutien absolument massif pour le moment à cette guerre. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais je pense que les Russes font aussi ça pour l'Occident. Oui. C'est pour nous faire peur à nous, c'est pour dire ah, il faut arrêter ces souffrances, du deal, laissez-nous tout ce qu'on a réussi à prendre. Il y a aussi la seule chose qu'ils font très bien, les Russes, c'est le travail psychologique sur l'Occident.
Il y a un message qui nous est envoyé à nous,
oui,
parce que il faut
laisser tomber, parce qu'ils savent très bien que nous, on n'a pas la résolution de gens qui savent ce que c'est qu'une guerre et ce qui va se passer si les Russes sont chez vous.
Ils vont être déçus parce que savoir ce que c'est qu'une guerre, quand même, on a un vague souvenir, ne serait-ce qu'au travers de nos grands-parents, britanniques comme français comme allemands. Non, ce qui est vrai. Ce qui est vrai.
Oui, britanniques, c'est surtout eux qui avaient subi le Blitz.
On ne va pas refaire la guerre.
Je dirais plus britanniques parce
en
que.
Ça
ce,
rappelle le Blitz, ça peut.
En termes d'occupation, non. C'est-à-dire en termes de ce qu'est une occupation et de ce qu'on peut en souffrir, non. Mais il y a autre chose qui est très importante à comprendre. C'est que depuis un an, le Kremlin nous sert une narration qu'il déploie méthodiquement auprès de la population russe. Et que cette narration, c'est l'Occident contre la Russie, l'Ukraine n'est qu'un état tampon où se joue par procuration une guerre entre nos deux pays. Le problème, c'est qu'à force de taper sur les populations, ils finissent par obtenir. C'est une prophétie autoréalisatrice. Oui, les Ukrainiens sont mobilisés, ils le sont de plus en plus, ils savent que c'est une guerre existentielle pour eux, parce que de toute façon, c'est une guerre existentielle pour eux, et petit à petit, l'Occident est en train d'envoyer de plus en plus d'armements, de plus en plus lourds et de plus en plus d'offensives, et on est en train, d'une certaine manière, c'est terrible à dire, de servir le discours de Vladimir Poutine. Ça ne veut pas dire qu'il faut y adhérer. Au contraire. Après, on a des choses à lui dire.
Alors,
mais il faut le savoir.
Alors, après, en tous les cas, 6 mois de revers russes militaires sur le terrain, eh bien, les Russes ont obtenu une première victoire. Ça n'est pas l'armée. Ce sont les mercenaires de Wagner qui ont emporté la petite ville, je dis petite parce qu'elle comptait 10 000 habitants, mais c'était avant la guerre, de Soledar. C'est dans la banlieue de Bakhmout, sujet décryptage de Maryse Burgo.
Il est le patron des mercenaires russes du groupe Wagner et il fait rire ses soldats. Blague incompréhensible de Yevgeny Prigojine sur ce sac de sel. Mais l'image est forte. Elle prouve que son groupe de miliciens est entré dans la ville de Soledar. Puisqu'ils ne réussissent pas à prendre la ville de Bakhmout, les mercenaires de Wagner communiquent sur cette petite victoire de Soledar. Mais ils perdent beaucoup d'hommes. Cette séquence filmée par les Ukrainiens montre des mercenaires de Wagner repérés par un drone. Ils tentent en vain de se cacher, de se replier. Tirs d'artillerie. Nous ne savons pas combien d'hommes ont succombé lors de cette attaque. Mais peu importe les pertes aux yeux de Yevgeny Prigojine, il offre une victoire à Moscou avec cette prise de Soledar et fait passer à son mentor Vladimir Poutine un message. Ses milices obtiennent des victoires là où l'armée russe piétine.
Nicolas Tonev, que sait-on de ces miliciens de Wagner? Qui sont-ils d'abord? Comment travaillent-ils? Et est-ce qu'ils acceptent d'aller au combat et au risque de perdre la vie? Parce qu'on voit, ce sont des combats quasiment au corps à corps. Hein.
Alors, le recrutement, de toute façon, chez Wagner est relativement clair. Hein. C'est ou vous suivez le chef, ou vous obéissez aux ordres, et, ou vous êtes tué, ou éliminé, ou on se débarrasse de vous d'une manière ou d'une autre. Donc, de toute manière, la motivation des hommes ne peut pas faiblir. Au départ, avant la guerre, il y a à peu près 10 000... personnes chez Wagner. Donc ce sont des mercenaires, pour la plupart d'anciens militaires plutôt aguerris. Et ensuite, pour avoir ce fameux effet masse dont on parlait, il a fallu recruter beaucoup. Et donc essentiellement dans les prisons, hein, ce qui veut dire qu'il y a une collaboration du gouvernement russe totale, hein, puisqu'il faut les faire sortir. Donc ça veut dire mettre en jeu le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Donc tout cela est organisé avec le gouvernement, quoi qu'en dise Prigogine, hein, il ne fonctionne pas tout seul en autonomie. Et d'autant moins que soudainement cette armée de mercenaires qui peinait en Centrafrique, qui peinait au Mali, qui a dû quitter le Mozambique et qui n'avait pas d'armement lourd, se retrouve à la tête, selon Prigogine, hein, de ses propres avions, de ses propres chars, de ses propres blindés. Donc ce qui veut dire qu'il a été aidé, tout ça n'est pas tombé du ciel. Et la prise de Soledad, pour lui, si on prend en fond d'écran ce qui s'est passé en Afrique, est assez essentiel, hein, puisqu'il y a ces fameuses mines de sel. Donc on sait comment ils fonctionnent en Afrique, hein, particulièrement en République centrafricaine. Hein, partout, il y a des minerais, des diamants, de l'or, du tungstène, au Mali également, de l'or. Prigogine se paie ainsi sur la bête.
Ah.
Donc, puisque souvent, il intervient dans des endroits où on n'a pas les moyens de le payer, où on le paie avec retardement. Et ces mines de sel, confusément, on se dit, dans la logique de businessman qui reste également celle de Prigogine, s'il tient Soledad longtemps et s'il arrive à exporter vers la Russie, ce sera un peu son trésor de guerre et il pourra se rembourser de ses efforts.
Et alors, Anthony Bélanger, ces méthodes de Prigogine sont réputées être très cruelles, hein, mais elle obtient des résultats, ça paye. Après 6 mois de revers, la Russie peut enfin dire « Eh ben voilà, on a fait tomber une ville ».
Deux éléments. La première, c'est que je suis toujours étonné qu'on ne se souvienne jamais de l'histoire. L'armée russe a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'au côté de l'armée russe, vous aviez des commandos de zec, c'est-à-dire de gens qu'on sortait du goulag, commandés souvent par le KGB ou des officines de sécurité intérieure, et qu'on envoyait là au casse-pipe en essayant toutes sortes de tactiques pour voir qui allait, si ça allait marcher ou pas. Mais Wagner, c'est une modernisation de ces bonnes vieilles méthodes de l'armée rouge, en fait. Deuxièmement, donc l'armée russe n'est pas étonnée d'avoir à ses côtés des espèces de wild cards, c'est-à-dire de cartes folles qui essayent des trucs et des machins. Deuxièmement, la victoire est toujours politique. J'essaie de m'expliquer. Quand vous faites un duel entre deux armées, vous choisissez vous-même le lieu du duel et les armes. C'est exactement ce qu'a fait Wagner. Il a choisi le lieu du duel, Bakhmout en l'occurrence, et les armes, la massification à la russe de l'artillerie. Il voit que ça ne marche pas à Bakhmout, il essaye par le nord, et ça marche à Soledad.
Donc c'est une petite ville au nord, dans les faubourgs de Bakhmout. Hein.
Quel que soit le nom de la victoire, la victoire est une victoire politique. Je vous donne un autre exemple. Le pont d'Arcole. C'est juste un petit pont qui fait pout-pout de part et d'autre, quelque part dans la campagne italienne. On en parle encore aujourd'hui.
Donc vous trouvez qu'on la surestime un petit peu, cette victoire de Soledad?
On la surestime certainement pas politiquement.
Politiquement, elle a son intérêt.
Elle a son importance. De la même manière, on utilise ça dans toutes les écoles de guerre, que les petites victoires d'armées qui ont besoin de publiciser et d'avancer sont des grandes victoires pour le pays qui les publicise.
Ce qui est important sur Soledad, c'est que ça peut donner un effet domino. En fait, vous avez un nœud ferroviaire assez important qui remonte vers Lysychansk, parce que effectivement, il y a le sel qui repart.
Il y a une route derrière.
Il y a une route également. Il y a une route qui est tout près du front. Il y a une grande route au milieu. Et tout cela peut éventuellement permettre aux Russes d'avoir de meilleures positions pour taper sur Bakhmout et éventuellement avancer vers Kramatorsk, hein, pour signer la prise totale du Donbass. Alors, c'est totalement hypothétique. Hein, mais
C'est l'objectif. Anne-Elisabeth Moutet, au même moment, on apprend que Vladimir Poutine a changé de chef d'état-major, enfin de chef des opérations en Ukraine. Ça n'est plus Sourovikine, mais c'est le grand patron de l'armée russe, Gerasimov, qui, de façon personnelle, sera désormais en charge des opérations militaires en Ukraine. Est-ce à dire que Vladimir Poutine était plutôt mécontent de la façon dont l'armée régulière se conduisait en Ukraine, et il disait au moins mes petits mercenaires, avec leur méthode de voyous, ils obtiennent des résultats, et donc on va changer, On va changer de tête pour diriger l'armée russe.
Alors, comme toute cette guerre est aussi, on se bat aussi sur des questions de communication et dans une large mesure, on vient de le dire, la prise de Soledad, pas entièrement, parce qu'il y a des côtés de l'autre côté du front de Soledad, qu'il y a des banlieues qui n'ont pas encore été prises, des banlieues de la banlieue. Mais et les Ukrainiens continuent à se battre, ils considèrent que ça n'est pas terminé. Mais ce qui s'est passé à Soledad, d'abord, c'est que Wagner a perdu 10 000 hommes. Alors, on a dit à l'instant qu'ils avaient 10 000 officiers, enfin 10 000 personnes qui étaient des mercenaires, qui étaient aguerris, et puis ils avaient les malheureux types qu'on envoie pour se faire tuer.
Attends, mais, il y en a perdu 10 000 sur 50 000, à taux de perte de 20%.
20%.
Ah oui, c'est et les donc, méthodes...
Avec ces méthodes qui ont été des méthodes extraordinairement coûteuses, juste et tous... Et alors, il y a eu des attaques régulières de Prigogine contre Gerasimov spécifiquement. Il les fait insulter par ses hommes, on le voit sur des vidéos.
Donc il y a une rivalité entre les mercenaires de Wagner et l'armée régulière
Il y a naturellement ça, Russie. Et il y a aussi l'idée de nous savons faire les choses, nous sommes compétents. Il y a une déclaration où il dit voilà comment on a fait, on est organisé, on a pris la ville en tenaille, on est rentré, enfin nous sommes compétents. Et on le voit aller voir ses soldats et tout ça, ça montre voilà ce que nous sommes, les Russes qui gagnent. D'abord, il a été calculé que ce genre de technique, contrairement à ce qu'il dit, c'est des techniques qu'on peut pas, ça peut pas marcher jusqu'au fond, parce que si on voulait les appliquer à Bakhmout, il faudrait 10 fois plus de monde, et donc c'est totalement impossible. D'autre part, il commence à y avoir si je peux me permettre une plaisanterie, une pénurie de viande. Alors, vous savez, la viande, bon, ce sont ces pauvres gens.
On parle de soldats à usage unique. Alors, ça, c'est pour l'armée russe, pour l'armée régulière.
Parce qu'il y a ce mépris total des gens mobilisés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ils vont retourner dans les prisons où ils sont déjà allés. Mais les gens des prisons ne sont pas fous. Ceux qui sont condamnés à vie, ils peuvent se dire, bon, après tout, tant qu'à faire, je peux y aller. Mais les autres ne veulent pas parce qu'ils ont tout de même des nouvelles. Alors, quelque part, Prigogine, il est aussi en train de parler dans sa vidéo à ses prochains conscrits. Et deuxièmement, il y a, alors ça, ce sont les malheureux prisonniers, mais qui sont pas des gens recommandables. Il sait qu'il y a un système carcéral terrifiant en Russie où il y a à majorité, il y avait sous Poutine, je veux dire, il y avait 1 million de personnes. Ils sont encore environ 550 000, dont seulement 8% sont des femmes. Et malgré tout, une bonne partie sont épuisées, droguées, fatiguées, infirmes, trop vieux, et donc on finit par manquer de ces gens-là. Et d'autre part, Poutine a annoncé une deuxième mobilisation également dans les grandes villes. Et ça, c'est une chose qui va lui faire un énorme tort, parce qu'on a déjà vu l'exil massif de Russes qui s'accommodaient très bien quand tuent des Ukrainiens quand c'était pas chez eux, mais qui veulent surtout pas être mobilisés pour être de la viande, alors, parce qu'on les appelle des mobiques et on leur donne des armes.
Ça, c'est pour l'armée régulière, justement. Oui. On va arriver à cette question. Est-ce que Vladimir Poutine prépare un nouvel appel à la mobilisation pour lancer une nouvelle grande offensive sur l'Ukraine? Nicolas Tonev, je cite notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nous allons rentrer dans un moment de massification lors duquel les Russes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Qu'est-ce qui fait dire ça au ministre de la Défense?
Alors, ce qui fait dire ça au ministre de la Défense, ce sont les renseignements qui sont relativement formels, hein, d'après les différentes sources que l'on peut avoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des renforts qui sont arrivés très largement sur le front de l'Est, hein, donc sur la ligne de contact du Donbass. Les Ukrainiens avec lesquels je suis en contact de l'armée, deux personnes, me disent, hein, ça devient vraiment très compliqué parce qu'ils ont beaucoup plus de machines en mouvement. Donc s'il y a plus de machines en mouvement, plus d'artillerie, cela veut dire qu'il y a plus d'hommes derrière. Deuxièmement, on a aussi côté biélorusse, là il y a des manœuvres aériennes qui commencent aujourd'hui. Et on sait qu'il y a eu des unités groupées russo-bélarusses. Alors ça ne veut pas dire que Loukachenko va y aller, hein, mais... En tout cas, c'est un indice. Et globalement...
Ça peut être des soldats russes qui sont acheminés via la Biélorussie pour aller se battre en Ukraine.
Oui, ou qui sont déjà... en fait, si vous voulez, la Biélorussie est une porte d'accès idéale pour Kiev. On l'a vu la dernière fois, ils sont sur place. Il y a à peu près entre 100 et 120 kilomètres de la frontière biélorusse à Kiev. Donc c'est vraiment...
L'objectif à nouveau pour être la prise de Kiev.
Dans tout ce qu'on entend aujourd'hui dans le monde du renseignement, clairement, on s'attend à ce que cette massification serve une grande offensive. La date, quand, comment, globalement, on pense que c'est une question ou de quelques semaines ou d'un trimestre, mais en tout cas, c'est...
Après le dégel.
Anthony Bélanger, il y a un an, ça avait lamentablement échoué, cette prise de Kiev. Là, les Russes voudraient retenter l'opération, mais avec beaucoup plus de fantassins, pour prendre physiquement la capitale ukrainienne.
Les Russes ont deux points forts, deux points faibles. Premier point fort, le Donbass, dans lequel ils ont pratiquement entièrement conquis. Deuxième point, les deux oblasts du Donbass. Deux points faibles, qui sont les deux oblasts du sud, Kherson et Zaporizhia. Ces deux-là, ils ont installé des lignes de défense. Dans le Donbass, ils n'ont pas installé de lignes de défense très impénétrables parce qu'ils comptent avancer. C'est aussi clair que ça. Deuxièmement, en Biélorussie, ils ne feront pas l'erreur de faire passer des colonnes de camions. Ils installent des moyens aériens parce qu'ils savent bien qu'il y a, il y a un problème de survol du territoire ukrainien. Donc en fait, ce que j'ai pu lire, c'était que dans les 6 mois, ce qui est suffisamment large pour imaginer tout ce qu'on veut, ils pensent probablement faire acheminer des moyens aériens depuis la Biélorussie et attaquer de ce côté-là, et des moyens humains depuis le Donbass qu'ils rêvent de conquérir entièrement. Bon. Okay. Donc en fait, c'est ça la perspective. Et c'est dans les 6 mois. La chose qui est très importante à comprendre, c'est que le général Gerasimov n'a pas été nommé pour punir les deux autres. D'ailleurs, le général Sourovikine est son adjoint direct. Le général Sourovikine, c'était le porteur de mauvaises nouvelles. Celui qui devait abandonner Kherson, renforcer les troupes ukrainiennes, les troupes russes dans les deux Donbass, créer des lignes de défense et éventuellement assumer les pertes de Kharkiv et de quelques autres reconquêtes ukrainiennes. Est venu le moment du général Yukov. C'est-à-dire de Gerasimov.
Gerasimov, le grand chef arrive pour annoncer la grande officielle.
Il n'y a pas de fusible au-dessus à part Poutine. Donc ça veut dire que ce moment est un moment de gravitas. On va arrêter les bêtises et on va commencer à faire la guerre comme on faisait au moment de la Grande Guerre patriotique. Yukov était l'adjoint direct et le militaire
de Staline.
Eh bien, Gerasimov sera celui de Poutine. Encore une fois...
Il rejoue la Seconde Guerre mondiale. Mais
bien sûr, parce que les Russes et les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont en partage? La dernière chose, la dernière pièce de mémoire historique qu'ils ont en partage, c'est justement les 6 millions à 7 millions d'Ukrainiens morts pendant la Grande Guerre patriotique et le fait que la Russie en ait fait un moment essentiel de son histoire. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'empire russe, donc pas d'Ukraine. Et donc, si vous voulez, ce fait de rejouer en permanence, côté russe comme côté ukrainien, ils se traitent tous les deux de nazis, cette Grande Guerre patriotique, il faut absolument que les gens l'aient en tête et le comprennent.
Alors, Vladimir Poutine prépare une nouvelle mobilisation. Les Russes y sont-ils prêts? Accepteront-ils de bonne grâce d'aller se battre sur le front ukrainien? Quel est l'état de l'opinion publique à Moscou et en Russie? Eh bien, vous allez voir, elle est abreuvée de propagande, sujet de Lionel Feuerstein et Valérie Lerouge.
Une vieille chanson russe au titre évocateur, « L'hiver sera long ». Des images d'une coupure de gaz qui plonge l'Europe dans un froid intense. Cette vidéo de propagande a été vue plus de 120 000 fois sur les réseaux sociaux russes. Elle n'est pas la seule. Pour Noël, la chaîne pro-Kremlin Russia Today interdit en France à diffuser ce spot. On y voit une famille européenne plongée en 2022 dans l'obscurité, sans gaz ni électricité, contrainte en 2023 de manger le hamster de l'enfant pour se nourrir. À la fin, ce message « Joyeux Noël, les anti-russes ». Cette vidéo caricaturale, nous l'avons montrée dans la rue, dans une petite ville au sud de Moscou.
C'est quoi ça? C'est un film?
Vous y croyez?
Oui, j'y crois. Et je crois en notre président.
L'Europe va s'effondrer sans le gaz?
Non. Vous avez une économie forte et plein d'autres choses que nous, on ne produit pas.
Ces clips de propagande feraient partie d'une stratégie pour discréditer les sanctions européennes et montrer leur inefficacité présumée face à la Russie.
Difficile d'évaluer réellement l'impact de ces clips de propagande sur le public russe. Une chose est sûre, le pouvoir contrôle entièrement toutes les informations avec un message très clair. Ici, seule la Russie l'emportera.
Alors, Anne-Elisabeth Moutet, ça a l'air de fonctionner quand même cette propagande. Enfin, on a eu deux sons de cloche. L'un qui a dit oui, d'ailleurs on est les meilleurs, et l'autre qui a dit bon... on sait bien qu'à l'Ouest, votre économie est plus forte.
On voit ceux qui ont l'internet et ça n'est pas et qui n'ont pas voir autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a tout un système. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit. Il y a une chose que les Russes font très bien et ça prédate l'Union soviétique, parce que quand Potemkin fait des faux villages pour faire visiter Catherine de Russie, c'est aussi évidemment de la propagande. Ceci plaqué sur hors des villes sur vitrines que sont Moscou et Pétersbourg, c'est un pays d'une grande pauvreté qui n'a pas d'accès l'extérieur, qui ne parlent pas de langues étrangères. Tous les gens qui parlent bien les langues étrangères, ce sont les gens qui vont à l'université à Moscou ou à Pétersbourg.
Et pas Saint-Pétersbourg, vous dites Pétersbourg.
Bon, oui, d'accord. Même on dit Peter en Russie. Ah, okay. Mais il y a cette propagande qui a repris avec des gens qui savent la faire. Et alors, ce qui est très intéressant, et on peut poser des questions à nos diplomates, c'est que tout ceci était assez visible dans la culture populaire, qui est celle où on peut toucher des millions de personnes. Il y a des romans dans le genre Tom Clancy, vous savez, du gros truc d'aventure avec des espions et tout ce qu'on veut. Il y a des films, il y a des séries télévisées, il y a des jeux vidéo, il y a des feuilletons, il y a des émissions à la radio. Et tout ceci, ça vous montre, avec les couvertures que vous pouvez imaginer, la prise de Kiev, évidemment, le bombardement de Washington, la prise de Londres. Il y a un sous-genre dans ces livres qui se vendent à des dizaines de millions d'exemplaires, qui est de la science-fiction où on voyage dans le temps et on va réveiller Staline, on l'empêche d'être assassiné parce qu'il n'est pas mort. Staline, on l'a assassiné, il n'est pas mort. Normalement, on l'a assassiné. Ils vont chercher Joukov pour venir conquérir l'Occident.
Joukov, alors, le grand général de la Seconde Guerre mondiale.
Le fameux général dont parlait Anthony à l'instant. Et voleur de montres et se battant avec d'autres officiers pour que ces soldats aient suffisamment du butin des endroits qu'ils ont pillés. Il faut savoir que Joukov, grand soldat, grand cavalier, tout ce qu'on veut, comme tous les Russes voleurs. Ah, enfin, comme tous les militaires russes.
C'est toléré, voire encouragé.
C'est quand vivement encouragé. Voilà.
Nicolas Tonev.
Tout ceci, ça a préparé les Russes à ça.
Sur cette propagande, dans quelle mesure fonctionne-t-elle et peut-elle fonctionner jusqu'à convaincre les Russes d'aller de bonne grâce se battre pour la mère patrie en Ukraine, contre l'Ukraine, dans le cadre d'une mobilisation qui serait plus massive?
Je dirais que c'est un petit peu plus compliqué maintenant qu'il y a une dizaine d'années, parce qu'en fait c'est une des rares réussites de Poutine, c'est d'avoir réussi à équiper la Russie, et c'est reconnu par des chiffres de l'OCDE d'ailleurs, d'un réseau de mobiles très important et qui fonctionne très bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui beaucoup de Russes en fait ont accès à l'internet mobile et donc peuvent voir autre chose que ce qui est offert par la télévision. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, tout ce qu'on voit sur l'adhésion des Russes, il faut toujours faire très attention. La dernière fois que je suis allé en reportage en Russie, dans la radio du taxi, on entend des chiffres glorieux de réussite économique. Le chauffeur du taxi est un patron d'entreprise de camions qui me dit « C'est quoi ?» Moi, tous mes camions sont à l'arrêt. Un pays où les camions sont à l'arrêt est un pays qui ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a quand même un fond sonore de vérité que les gens connaissent. En même temps, en Russie, avec la dureté du régime, il est extrêmement compliqué de s'exprimer clairement. Et s'il est difficile de s'exprimer, évidemment, refuser de partir à la guerre, c'est encore plus dur. On voyait les Russes, franchement, c'est un peuple qui est confronté à des difficultés énormes entre survivre au quotidien, pour beaucoup dépendre pour le salaire des administrations ou locales ou régionales ou fédérales, et réussir à trouver un espace de liberté dans tout ça pour être sûr de rentrer à la maison, ne pas être arrêté arbitrairement, etc. Franchement, c'est très compliqué.
Alors, est-ce qu'il prend un risque, Vladimir Poutine, s'il ordonne une mobilisation plus générale? Est-ce qu'il ne faudra pas aller les chercher un par un avec les maires qui diront non, alors, pas mon fils?
D'abord, il ne faut pas être grand clair pour savoir que si jamais ça ne marche pas, il tombera. Tous les régimes russes sont tombés sur des désastres
militaires. Donc Poutine sait qu'il joue, il joue sa tête.
Il joue dos au mur. Et d'ailleurs, le moment Gerasimov, c'est aussi un peu ça. C'est le dernier moment. Oui. Deuxièmement,
dans les six prochains mois, là,
écoutez, franchement, j'ai dit ça, j'ai été démenti par les faits. Bon. Maintenant, avec un peu d'expérience, je me dis, bon, on va peut-être se calmer sur les prédictions, Madame Soleil, mais je sais, l'histoire l'enseigne, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, les régimes russes tombent sur des désastres militaires. Les régimes russes tombent sur des désastres militaires. Les autres aussi, d'ailleurs. 1917, désastre militaire, le tsarisme tombe.
La guerre russo-japonaise.
Le régime, 400 ans de dynastie Romanov qui tombe. 1991, la fin de la guerre en Afghanistan, le régime soviétique s'effondre. OK. Le dernier empire d'Europe s'effondre. Maintenant, ça fait 10 ans, j'ai des amis russes qui me disent, c'est simple, à la télévision russe, pour les gens qui regardent la télévision, c'est-à-dire 45-65 ans, c'est Ukraine. OK. La question est de savoir si, est-ce qu'à la fin
de ces opérations de propagande, d'espèces de remise au goût du jour de la Grande Guerre patriotique, de la guerre contre les nazis, de la guerre contre l'Occident, toutes choses qui, pour beaucoup de Russes, sonnent comme l'Union soviétique, qu'ils regrettent en plus en partie, suffira pour mobiliser 500 000 hommes de plus et surtout fermer les frontières. Parce que la première chose qu'a fait Poutine est une chose très intelligente. Il a fait une mobilisation partielle, une conscription partielle de 300 000 personnes et laissé partir tous ceux qui ne voulaient pas venir. C'est très malin. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus en Russie des relais d'opinion capables de s'opposer et d'organiser des... ils sont tous et dans les pays...
Tous les râleurs...
Tous les râleurs, tous ceux qui sont contre, tous les geeks, tous ceux qui... Alors, c'est très mauvais pour la Russie à l'avenir. Mais il n'a pas un problème pendant 10 ans, Poutine. Il a un problème pendant un an. Donc... on dit beaucoup qu'il est en train de faire une deuxième phase de mobilisation qui pourrait mobiliser 500 000 personnes. Franchement, 500 000 Russes mal payés, jeunes, qui peuvent gagner ou qui recherchent un peu de gloire. Anniva l'expliquait très bien en revenant de 2 mois de reportage qu'elle a fait pour Le Point. Non seulement elle en a trouvé, mais elle en a trouvé beaucoup. Parce que, vous aviez raison de le souligner, la Russie, c'est un village Potemkin. C'est-à-dire, c'est le PIB de l'Espagne. En dehors de l'énorme protubérance de Moscou et un peu de Saint-Pétersbourg pour les touristes, c'est une terra incognita.
Dans les terres reculées, il y aura des candidats. Qui on promettra une bonne solde pour aller se battre en Ukraine.
Est-ce que vous connaissez la recette du borscht?
Alors c'est quoi le borscht?
Le borscht, c'est la soupe nationale russe. La recette du borscht, c'est que vous prenez des trucs indigestes, genre la betterave, le céleri rave, vous mettez tout ça dans une énorme marmite et vous faites cuire ça pendant 8 heures. Et à la fin, vous obtenez une soupe absolument délicieuse. J'en ai fait une à la maison il n'y a pas très longtemps.
Ah bon, du borscht.
Et c'est ça la politique de propagande de Poutine. C'est que vous prenez des trucs indigestes, pendant 10 ans, vous les faites cuire, et à la fin, les gens le mangent avec bonheur.
Le gorge.
Alors, le borscht.
Le borscht. Bon, il faudra que vous amenez du borscht la prochaine fois. Anne-Elisabeth Moutet.
Alors, je crois qu'il faut tout de même dire que, justement, c'est très vrai. Tout le monde a des téléphones portables. À l'armée, on leur dit de donner leur téléphone portable à l'ordre d'y aller. Ils ne l'ont pas fait. Non. Ils les ont gardés. Et on voit tout le temps, on peut trouver sur des tas de chaînes Telegram, des vidéos que vous pouvez faire traduire avec une...
Vous m'en avez envoyé quelques-unes.
Artificielle, absolument. Mais on en voit aussi de ces malheureux Russes, ce qu'on appelle les mobiques, c'est-à-dire, c'est méprisant, les malheureux qui ont été mobilisés, à qui on n'a pas donné d'équipement, à qui on n'a pas donné de chaussures, à qui on n'a pas donné d'anorak, à qui on n'a pas donné d'armes, leur fusil sans rayon, ils n'ont rien d'autre, leur camion ne démarre pas, parce que tout ça a été volé. Parce que ce qu'on oublie, c'est aussi l'immense corruption de l'armée russe. Jusqu'en 2013, il y avait un ministre de la Défense, dont le nom m'échappe à l'instant, qui a essayé de se battre contre la corruption. Et quand je parle de corruption, c'est pas de l'argent piqué dans la caisse seulement, c'est que vous avez de l'argent pour acheter 100 tanks, et ça va dans des banques étrangères à Singapour ou à Londres. Et donc, les équipements sont vendus sur l'équivalent russe de eBay ou ailleurs, mais les soldats ne l'ont pas. Donc, ils y vont sans équipement, sans tente, sans rien. Ils arrivent dans des endroits où on ne leur donne presque pas à manger, où on les fait dormir dehors. Et ils se retrouvent au front avec rien, et ils pleurent. Et honnêtement, ça vous crève le cœur, même s'ils sont en train d'assassiner des Ukrainiens. Ils n'assassinent plus personne, ils sont dans des tranchées sous la flotte. Et alors, il y a des coups de téléphone qui ont été enregistrés, et c'est absolument terrible parce qu'on entend une mère qui vit dans le centre de la Russie et qui dit à son neveu, c'est pas une mère, c'est une tante, et qui dit à son neveu, et qu'est-ce que tu veux? Il dit, tante, je suis dans une tranchée, je sais pas si je vais te revoir, et dès qu'on bouge un tout petit peu, les Ukrainiens nous tirent dessus, ils ont des drones, ils nous voient. Mais qu'est-ce que tu fais dans une tranchée? Allume un feu si tu as froid. Il lui dit, je suis dans une tranchée, il comprend absolument rien. Il y a des villages, pourquoi tu vas pas voler quelque chose dans un village? On a besoin de choses à la maison. Alors, c'est pas des images d'une armée victorieuse, je veux dire. Il y en a des centaines de ces vidéos. On sait que les conditions sont épouvantables. On sait que, en plus, Poutine a pris une décision pour son armée qui est une décision stupide et qui consiste à prendre beaucoup des sous-officiers pour en faire des troupes d'élite. Mais ça veut dire que vous avez des officiers qui ont absolument aucun contact avec la réalité. C'est comme chez les tsars. Et vous avez des troupes qui ne sont pas commandées. Il y a maintenant des unités qui sont là pour tirer sur les déserteurs. C'est-à-dire que vous avez un front d'attaque et derrière, vous avez des unités.
Comme du temps de Staline, si tu avances, tu es tiré par les Allemands, et si tu recules, tu es tiré par les siens.
Tu es tué par nous. Et donc, Peut-être qu'il est capable de refaire une mobilisation et de tout changer. Je suis plus pessimiste, je dirais, sur la capacité d'une part de Poutine à faire marcher ça, parce qu'on lui a menti. En 2013, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, là, il y a eu un ministre qui a essayé de faire des efforts jusqu'en 2013. Quand vous essayez de réduire la corruption au niveau où ça arrive, on sait bien que les dernières années de la guerre de Tchétchénie, c'était essentiellement des généraux qui suivaient leurs intérêts personnels et qu'à Moscou, on ne pouvait même pas le contrôler. Eh bien, vous n'êtes pas populaire. Donc, il a fait remplacer ce ministre de la Défense par celui qui est encore là, qui s'appelle Shoigu. Oui, Shoigu est un Asiatique. Il a un palais aussi grand que celui de Poutine, avec 100 chambres et tout ce qu'on veut, mais il ressemble à une pagode. Ça veut dire qu'il n'a aucun réseau à Moscou, parce qu'ils ne sont pas très dans l'inclusif et le divers en Russie. Et Shoigu, tout ce qu'il fait, c'est jusqu'à la guerre, il se faisait prendre en photo avec Poutine en train de pique-niquer dans les bois à côté d'un ours, enfin des choses comme ça, parce qu'il n'a aucun réseau. Et Poutine s'est satisfait de ce ministre. La première chose qu'il a faite, c'est évidemment d'arrêter toute la lutte contre la corruption, parce qu'il n'avait pas de copains. Ce n'était pas le moment de se faire en plus des ennemis déclarés. Donc, Shoigu, les Ukrainiens disent, bah, écoutez, surtout qu'il reste, c'est l'homme qui nous a permis de gagner des choses. Tellement... Mais on parle de la mobilisation russe comme si la capacité de bataille de l'armée russe ressemblait à la capacité de bataille d'une armée européenne.
Alors, vous nous avez décrit tout à l'heure ces pauvres, j'allais dire, parce qu'après tout, ce sont des hommes, soldats russes dans des tranchées, c'est en train de téléphoner des gosses à leur tante en disant « qu'est-ce que je fais? Je me fais tirer dessus si je lève la tête ». Je propose de voir cette vidéo. C'est une vidéo filmée par commentée par des Ukrainiens, donc prise depuis un drone où l'on voit des Russes. Vous allez voir, ça va mal se terminer pour ces Russes. On regarde cette vidéo filmée et commentée par des Ukrainiens.
Regarde les Russes, comme ils courent tout droit. On les voit, il y en a un paquet. Plus haut, ils vont très vite.
Vous allez brûler en enfer. La 45e brigade d'artillerie vous salue. C'est bon.
Nicolas Tonev, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression avec ces drones qu'on est sur des jeux vidéo et on déshumanise un peu la guerre.
Oui, en fait, ce qui est terrible avec ces images, c'est qu'il faut quand même comprendre qu'il y a des morts dessous.
Voilà.
C'est comme lorsque l'on voit des vidéos où des tanks sont touchés. Dedans, il y a un équipage. Et pour avoir vu ce qui reste dedans les équipages, franchement, c'est atroce. Donc, moi, j'ai du mal un peu avec ces images. Et d'autant plus qu'il y a énormément de morts. Et c'est cohérent, finalement, avec ce que vous disiez. C'est qu'effectivement, on envoie des soldats qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas nourris. Mais tout cela, c'est l'armée russe, parce que d'abord, si on se souvient de la Tchétchénie et même du début de la guerre ici, les chaînes logistiques sont réduites au minimum. Donc pour se nourrir, pour survivre, en fait, on se sert sur la bête, sur le terrain. Vous voyez des transports de troupes blindés qui sont remplis. En fait, les soldats sont sur le toit et les transports de troupes sont remplis de télévisions, d'ordinateurs, etc. Tout cela a été volé sur le champ de bataille. Et ensuite, le mauvais équipement, finalement, il n'a pas tant d'importance que ça, parce que la tactique, en fait, pour savoir où sont les Ukrainiens, c'est de se faire tirer dessus. Effectivement, il n'y a pas de meilleure tactique que ça. Bien donc, sûr. Moi, ce que me racontent les officiers qui sont dans la région de Barmout, c'est que vous avez une petite troupe de 6-7 soldats russes qui avancent, on leur tire dessus, vous leur avez tiré dessus, donc on sait où est votre position, les Russes sont morts, peu importe, maintenant on sait où tirer. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et c'est pour ça que finalement, que ces soldats soient mal nourris, peu équipés, etc., c'est pas si grave que ça, parce que de toute façon, dans la tactique utilisée, leur espérance de vie n'est pas amenée à être très très longue.
Alors, ça, excusez-moi, c'est tout à fait vrai. Et il faut que personne ne doute de la conviction que j'ai qu'à la fin, l'armée ukrainienne l'emportera. Et
alors, c'est ce que j'allais dire, qu'on parle un peu de l'armée ukrainienne. Voilà, est-elle plus technologique ou a-t-elle toujours les pratiques? Parce que c'était l'URSS, l'Ukraine.
Est-ce qu'elle a les pratiques russes? Non, c'est pas grand-chose et c'est tant mieux. D'abord, je rappelle que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle ne manque pas d'hommes. Elle est mobilisée.
L'armée ukrainienne.
Elle est mobilisée depuis le 24 février. Elle avait à sa disposition 10 millions d'hommes en état de se battre. On ne sait pas combien elle en a mis en face. Elle ne communique aucun chiffre, et c'est tant mieux, parce que probablement ce dont se sont rendus compte les Russes, c'est qu'ils n'avaient pas peu de résistance, et notamment peu de résistance en hommes. Or, l'armée ukrainienne applique des standards occidentaux qui consistent, contrairement aux Russes, à ne pas mettre des hommes non expérimentés, il suffit de regarder les images. Je ne suis pas du tout en train de commenter des images de propagande. Vous regardez les soldats ukrainiens quand ils s'approchent des journalistes ou pas, d'ailleurs, et vous les voyez effectivement habillés à l'occidental avec un bon équipement, etc. Donc, en fait, les Ukrainiens ont un vol volant d'hommes qui sont capables de mobiliser, qui sont en train de former en ce moment à la guerre moderne, à l'arrière des troupes, et à l'arrière des troupes, et qui probablement sont un nombre beaucoup plus important qu'on l'imagine.
Donc ce que vous dites, c'est que parce que souvent on dit par la loi des grands nombres, la Russie c'est finira par l'emporter.
Ça, c'est encore une fois, bon, et de l'eau coulera sous les ponts. Par contre, ce que je tenais à souligner, vous avez raison de souligner que la première partie de cette guerre, en septembre, la panique s'est emparée des Russes et qu'ils ont mis tout et n'importe quoi sur le front parce qu'ils avaient besoin, encore une fois, de tir à canon pour repérer les trucs. Je pense que cette deuxième partie de... Ça, c'était la période Sourovikine, qui a relativement bien fait son boulot de militaire. La période Gerasimov, s'il a pris en charge... Les opérations, c'est parce qu'il sait qu'il a derrière lui des hommes qui, petit à petit, vont être de mieux en mieux formés, de mieux en mieux équipés, et qui vont finir par arriver sur le front. J'interprète ce que disent notamment les services de renseignement américains et britanniques.
Anne-Elisabeth Moutet, sur l'armée ukrainienne maintenant, oui. Est-ce qu'elle est mieux... Alors, d'abord, elle bénéficie du soutien logistique des Occidentaux. Ça veut dire le renseignement, des équipements, le canon César français, les HIMARS américains.
Il est arrivé il y a deux mois, le canon César français. Il ne faut pas en dire du mal, il a fait beaucoup de bon
travail. Mais non, mais justement, je ne dis ça sans ironie.
Il faut surtout savoir qu'il y a eu l'attaque en 2014, la prise de la Crimée et la guerre du Donbass, qui a été une guerre de position tout à fait cruelle. Quand on va à Kiev, on voit une rue à côté de la cathédrale, je crois, Saint-André, où vous avez, à l'époque où j'y suis allé, il y avait les photos de 14 000 personnes qui étaient mortes avec leur nom, etc.
Ah, ça y est toujours.
Ça y est toujours, bien sûr. J'ai peur qu'il y ait plus de monde dedans, c'est tout. Et l'armée ukrainienne est effectivement une armée à la soviétique, avec de l'équipement à la soviétique, dont une partie était d'ailleurs fabriquée en Ukraine même.
En 2014.
En 2014.
14, ouais.
Quand les Ukrainiens ont vu ça, puisque chaque attaque russe renforce la cohésion de la nation ukrainienne,
ils ont pris
des décisions qui consistaient d'abord... d'introduire la conscription, ensuite qui n'existait pas avant, ensuite d'introduire un système de période militaire qui font que tout le monde entre 18 et 60 ans passe du temps dans l'armée comme les Suisses ou comme les Israéliens, et que tous ces gens, ou la plupart de ces gens, ont été envoyés se battre sur le front du Donbass. C'est-à-dire que vous avez un volant d'environ 300 000 personnes qui ont l'expérience de se battre avec les Russes. Ensuite, alors, ils ont contacté des Occidentaux, plus des Britanniques d'ailleurs que des Américains, et ils ont fait un entraînement qui fait que leur armée a maintenant des techniques entièrement différentes des Russes. Les soldats ont l'habitude de prendre l'initiative quand ils sont sur place. Le règlement militaire dit même que si votre officier vous donne un ordre, mais sur place vous voyez autre chose, c'est votre devoir de faire ce qui répond à la situation, c'est-à-dire de la prise d'initiative, de l'utilisation de l'équipement moderne. Il faut aussi savoir que l'Ukraine est un pays où, comme d'ailleurs dans l'essentiel des pays d'Europe de l'Est, où il y a un excellent système éducatif, il est hérité du gymnasium allemand du 19e siècle, et que vous avez à peu près 200 programmateurs ukrainiens qui font des sites web dans le monde entier et qui manquent beaucoup maintenant parce qu'ils sont tous en train de faire la guerre et aussi la guerre en électronique. Et donc, cette armée s'est entraînée avec la volonté d'abord de ne pas se faire attaquer, parce qu'il n'y a rien de tel que de se faire piquer l'Alsace-Lorraine pour avoir une grande résolution. Et je dirais qu'aujourd'hui, des généraux comme Ben Hodges, l'ancien chef d'état-major américain, disent que c'est probablement la meilleure armée d'Europe.
C'est vrai.
Donc on est en train de parler de quelque chose d'entièrement différent. Chaque fois qu'on dit on ne va pas leur envoyer ce matériel, il leur faut trop de temps pour apprendre. Et ils apprennent en un tiers ou une moitié du temps qu'on dit, parce qu'ils sont à la fois bien éduqués et ils ont une conviction absolue que c'est existentiel.
Alors justement, au début, on envoyait aux Ukrainiens, on hésitait, les Allemands hésitaient à leur envoyer des couvertures ou des casques. Maintenant, après, on leur envoyait des mitraillettes. La France va envoyer des chars légers, des véhicules blindés légers. Et la nouveauté, c'est la Grande-Bretagne qui annonce l'envoi de chars lourds. Est-ce que les Allemands vont suivre et envoyer leur fameux char Léopard, qui est un gros char made in Germany? Élément de réponse avec Géraldine Delinger.
Une visite surprise à Kharkiv. Jusqu'ici, aucun diplomate de ce rang n'est venu dans cette zone en pleine guerre. Annalena Baerbock en a profité pour distribuer des jouets à des enfants dans un hôpital.
Je veux montrer au monde entier à quel point la ville de Kharkiv est forte, mais surtout à quel point les enfants de Kharkiv sont forts pour affronter cette guerre.
Un déplacement au moment où l'Ukraine souhaiterait que l'Allemagne fasse plus pour elle. Son homologue ukrainien a demandé une nouvelle fois que l'Allemagne leur livre des chars de combat Léopard.
Et donc le Royaume-Uni lui, a annoncé l'envoi de 14 chars lourds. Hein. Mmh. On parle de gros chars Challenger 2. La France, elle, il n'est pas question pour l'instant qu'on envoie de Charles Leclerc. Ah, ou, ça va venir. Les Allemands hésitent à envoyer leurs chars Léopard 2, qui sont aussi des gros chars costauds. Est-ce que l'équipement, évidemment, occidental permet, sera un game changer et permettra à l'Ukraine de gagner cette guerre ?
Ça va dépendre du volume de matériel que l'on peut envoyer. Si on prend les données techniques entre un Challenger et un T-72, clairement, il n'y a pas photo. Un T-72 seul n'a aucune chance contre un Challenger.
Hein, c'est le char russe ?
C'est le char moyen russe dont est tiré à toute la série des T-72, T-80, T-84.
72, ça veut dire qu'il date de 72.
72, exactement. 1972. Et le Challenger, lui, date des années 90. Il pèse 20 tonnes de plus. Il va malgré tout aussi vite. Il peut résister à un tir direct de T-72 alors qu'un tir de Challenger va détruire un T-72. Donc, un contre un, le T-72 n'a aucune chance. Maintenant, en fait, il en faudrait beaucoup pour changer la phase de la guerre sur toute la ligne de front. Mais ce qu'il y a à noter, en fait, dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois que vous rajoutez un nouveau matériel, il faut une chaîne logistique derrière, il faut reformer les personnes. Alors même si on le lit dans la littérature spécialisée militaire, hein, les formateurs de l'OTAN, américains, anglais, disent que les soldats ukrainiens apprennent très vite, se forment très vite et coûtent beaucoup. Avec 14 chars, ça peut être un petit peu peu, mais notre problème à nous, c'est que envoyer plus, c'est très compliqué parce que vous avez affaire à du matériel. Si vous prenez le Leclerc, le Challenger, qui n'est plus produit. Donc vous en avez 200, vous avez à peu près 200 Leclerc.
La France a 200 chars Leclerc.
Nous, on a 200 chars Leclerc. Après, on pourra ajouter quelques prototypes. Mais bon, si on en envoie, on va avoir un gros problème de fabrication de pièces détachées. Le Challenger, c'est pareil. Hein, les Anglais en ont à peu près 220, 230. En fait, le seul char qui existe en grand volume et qui peut être cassé et changé, c'est le Abrams américain. Parce que là, vous avez de 2000 à 3000 chars en réserve. Mais ça veut vraiment dire, du coup, que vous vous retrouvez avec Washington et Moscou directement.
Voilà. Il y a un moment où la frontière de la belligérance pourrait être
le char intermédiaire, c'est le char Léopard. Justement, il est facile. De trois chars, c'est celui qui est le plus facile à prendre en main. Et il n'y a pas que l'armée allemande qui en possède. Elle en possède assez peu. Il y a des tas d'armées dans la Pologne, la Grèce, l'Espagne.
Mais il faut l'accord de Berlin.
Il faut l'accord de Berlin qui, à mon avis, n'est pas très loin de le donner.
Et Berlin, il considère que des chars, c'est des objets de décoration. Il ne faut surtout pas s'en servir.
Oui, ils construisent des chars et ils vous les vendent à condition que vous ne les utilisiez pas. C'est la blague qui circule à Berlin, je crois.
Mais il y a une résistance énorme en Allemagne.
Et on les comprend.
De raison,
c'est le pacifisme allemand.
C'est
pour ça qu'on les aime maintenant.
Par leurs grands voisins.
Voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée sur France Info. À demain.